Donc, nous avons le plaisir, la librairie Mola, le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux auteurs qui sont Alexandra Desté. Alexandra Desté est docteur en littérature et conférencière. Elle anime notamment, entre autres multiples activités, les rencontres femmes et sociétés à l'Université populaire de Caen. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Frédéric Tachou. Frédéric Tachou, qui est plasticien, esthéticien, qui est docteur à Paris 1 en esthétique et sciences de l'art. Et surtout, il a une carrière de cinéaste expérimental. Il est également enseignant, puisqu'il enseigne l'analyse du cinéma expérimental, entre autres à Paris 1 et dans d'autres universités. Alors, Alexandra Desté et Frédéric Tachou sont chacun auteurs d'un ouvrage, la raison pour laquelle nous sommes ici. Donc, que vous connaissez, que vous avez vu, cet Eros au féminin et et le sexe entra dans la modernité, sous-titré Photographie obscène, entre guillemets, et cinéma pornographique primitif aux origines d'une industrie. Les deux chez Klingsic, l'un en 2013, l'autre en 2014, mais enfin, c'est fin 2013 et début 2014. C'est deux ouvrages extrêmement récents. Donc, deux ouvrages d'actualité et d'actualité aussi. En ce qui concerne la thématique, enfin j'espère, en tout cas ce sera peut-être l'objet d'une de nos interrogations. Alors l'ouvrage « Eros au féminin » d'Alexandra Desté concerne le domaine de la littérature et embrase la période de la fin j'aurais dû commencer par Frédéric Tachou en fait, mais tant pis, on va faire la version chronologique tant que j'y suis. De 1950, même s'il y a quelques allusions à avant 1950, jusqu'à aujourd'hui. Alors que l'ouvrage de Frédéric Tachou, qui se fonde sur le domaine du cinéma, s'intéresse à la période de la fin du 19e jusqu'à 1950. Donc j'aurais dû commencer par citer Frédéric Tachou, puisque chronologiquement, c'est fin 19e, 1950 et 1950 jusqu'à nos jours au cinéma. En littérature, la pornographie et Eros. Donc, c'est peut-être difficile de se rencontrer ici parce que c'est pas exactement ni la même période, ni le même domaine, ni le même thème, et pourtant beaucoup de points de convergence et des différences aussi, comme nous allons le voir ensemble. Alors, je me suis pas présentée d'ailleurs. Moi, je m'appelle Cécile Cross. Hein, Je suis maître de conférence HDR à l'Université Boire de Montaigne en esthétique et sciences de l'art. Et la librairie Mola m'a demandé d'essayer de poser des questions, d'animer ce débat, parce que ce qui nous intéresse finalement, c'est le point de vue, c'est l'éclairage de ces deux auteurs au travers de leur ouvrage, que nous avons lu ou pas, mais peut-être pour nous donner envie de le lire. Alors, nous donnons envie de le lire parce que ce sont de véritables études très, très importantes, très imposantes. Donc, on a du mal à acheter un livre qui fait 350 ou 250 pages.
Ça va faire peur aux lecteurs et aux lectrices.
Mais en vérité, à vous écouter...
Non, c'est très léger. Hein.
À vous écouter, finalement, surtout sur des thèmes comme ça, qui peut-être font peur aussi, on verra, ou ont quelques attraits, eh bien, finalement... On a envie, et quand on se lance dans cette lecture-là, on a envie d'en savoir plus. Alors, érotisme ou pornographie, ou peut-être obscène, obscène puisque c'est ce qui est inscrit aussi en couverture et entre guillemets. Alors, c'est un vieux débat, érotisme ou pornographie, oui. Un vieux débat, ou on peut le dire autrement, un débat déjà vieux. Parce que, en fait, comme vous le dites, Alexandra, aucun de ces termes ne choque vraiment aujourd'hui. Absorbé sans doute par la consommation de masse, doublé d'un accès facile par Internet et disséminé sur tant de supports ou tant de domaines publicitaires, artistiques, scientifiques, dans le quotidien, domaine festivalier. Alexandra Desté, votre première phrase de l'ouvrage, c'est « Aujourd'hui, l'érotisme est un terme galvaudé ». Voilà. Vous citez le salon de l'érotisme et vous dites que des stars du X y dédicacent leurs photos. Alors, Eros, érotisme, star du X, déjà, on traverse les domaines de l'érotisme et de la pornographie. Et pourtant, c'est avec ce premier regard d'un terme qui n'a plus tellement de sens pour nous. Et les approches scientifiques, dites-vous aussi, de l'érotisme ou de la pornographie, eh bien, sont foison, ne sont plus quelque chose d'extraordinaire. Hein. Eh bien, justement, ces approches scientifiques, parlons-en avec ces deux ouvrages. Alors, en citant le dictionnaire de la pornographie de Philippe Di Folco, vous dites, Alexandra, que la pornographie est désormais élevée, je cite, au rang de pratique culturelle étudiable. C'est-à-dire qu'elle pourrait devenir objet d'étude, objet de réflexion et notamment ouvrir un questionnement philosophique sur l'être humain. Vous, dont l'ouvrage est titré pourtant Eros, non pas la pornographie, mais Eros au féminin. Pourtant, à la lecture de l'ouvrage de Frédéric Tachou, sous-titré Photographie obscène et cinéma pornographique primitif aux origines d'une industrie, eh bien, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que cet auteur s'attaquait quand même à un sujet délicat, c'est-à-dire un sujet à controverse. Oui, encore à ton controverse, malgré tout. Malgré, ouais. Je pense qu'il n'y a pas contradiction, je vous pose une question tout de suite, dans quelques secondes, vous me direz. Non pas, bien sûr, qu'aujourd'hui son objet soit interdit de citer, c'est-à-dire non pas que la pornographie soit tabou, mais qu'il y reste toujours dans ce sujet quelque chose d'irréductible à l'analyse scientifique et qu'on n'a toujours pas fini d'en découdre avec le sexe. Et que non, ce n'est pas un sujet d'étude comme les autres. Ce n'est pas un sujet d'étude comme les autres si l'on parle de pornographie ou si l'on parle même d'érotisme. Alors ma première question, la voici, c'est qu'est-ce qui dans ces termes-là, érotisme ou pornographie, touche, nous touche en particulier? Et qu'est-ce qui vous a intéressé suffisamment pour y consacrer une si longue étude? Pourquoi avoir choisi l'un, Frédéric, la pornographie, et l'autre, Alexandra, l'éros? Je ne vais pas vriller vos termes, je ne vais pas dire érotisme, je dis éros, puisque c'est votre titre. Qu'est-ce qui distingue finalement ces deux notions, selon chacun de vos points de vue et chacun de vos domaines d'élection, le cinéma, la littérature, et chacun l'époque concernée? Alors, l'un et l'autre,
honneur aux dames,
qui veut commencer?
C'est vrai que, il n'y a pas qu'une raison qui m'a conduite à me lancer dans une telle recherche, qui n'était pas évidente à défendre dans un contexte universitaire, puisque, par exemple, mes précédents mémoires portaient sur le théâtre du Cyrano de Bergerac. Donc, c'était vraiment très différent. Et je me suis rendu compte que l'érotisme est un terme effectivement à l'élasticité importante, qui est utilisé pour désigner des salons qui en réalité constituent plutôt des supermarchés du sexe, comme vous venez de le dire. Dans le même temps, je constatais que la pornographie trouvait désormais ses lettres de noblesse, qu'on pouvait effectivement observer qu'il y avait des dictionnaires consacrés à la pornographie, et que ce qui... Avant, dans les années notamment 50, 60, au moment donc, où il y avait une censure très virulente à l'égard des œuvres littéraires qui osaient mettre en mots, mettre en image la sexualité, le terme pornographique était utilisé de façon péjorative pour signifier que là, l'auteur avait franchi un cap et était dans une transgression. Au point que si, par exemple, on prend l'exemple des œuvres de Sade, Sade a été publié officiellement et son œuvre a été publiée intégralement seulement au début des années 50 par un éditeur très frondeur qui s'appelait alors Jean-Jacques Pauvert, et l'œuvre a été cette démarche a été qualifiée de pornographique. Il a fallu que l'éditeur mais aussi les auteurs qui soutenaient cette redécouverte de Sade qui se voulait positive, il a fallu que les auteurs mobilisent des arguments pour expliquer que l'œuvre de Sade avait une portée philosophique, avait une portée documentaire pour montrer justement justement compenser cette étiquette infamante hein, qui dénonçait férocement une transgression. Moi, ce qui m'intéressait, en fait, comme je suis une féministe, et pour moi le féminisme n'est pas un gros mot, c'était vraiment de... et je me rendais compte que lorsque l'érotisme était abordé, c'était surtout du point de vue masculin, que la femme apparaissait comme l'objet du désir masculin dans des œuvres écrites essentiellement par des hommes. Donc j'ai voulu savoir ce que les femmes ont écrit sur la sexualité. Et j'ai lu un ouvrage, alors je ne sais pas, est-ce que vous avez lu par exemple Histoire d'eau de Pauline Réage ? Donc un récit... défini comme que l'on retient surtout comme un récit sadomasochiste, alors que c'est une lettre d'amour fou adressée par une femme en direction de l'homme aimé, Jean Paulhan, qui était directeur de la Nouvelle Revue Française. La femme auteure ne se sentait pas suffisamment jolie pour captiver l'attention de son amant, et donc elle a écrit en fait un récit à partir des fantasmes qu'elle savait agréables pour son amant. Elle savait que le fait d'écrire ce récit allait plaire, allait séduire son amant. Et la lecture de ce récit qui a été publié donc officiellement en 1954 lors d'une période de forte censure à l'égard des œuvres littéraires, cette lecture m'a profondément dérangée, m'a profondément révulsée, et j'ai essayé de comprendre pourquoi j'étais dérangée. En fait. Et j'étais dérangée parce que je me suis rendu compte que juste avant, j'avais lu Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, et je ne comprenais pas qu'une femme ose faire l'apologie de l'esclavage amoureux 5 ans après la parution du deuxième sexe. Je trouvais que voilà, Le deuxième sexe ouvrait un champ immense pour l'accès des femmes à leur indépendance économique, sociale, mais également sexuelle et amoureuse. Et pour moi, voilà, tout est parti de là, de cette volonté de comprendre comment se fait-il qu'une femme... Et j'ai compris que finalement, ce récit où le sexe, en fait, la femme, donc le personnage féminin central qui s'appelle O, et vous avez une adaptation cinématographique intéressante hein, de Juste Jacquin qui date de 1975, qui peut être une façon pour vous de découvrir l'œuvre qui a donné son origine au film. Donc en fait, le personnage féminin pense qu'en se donnant sexuellement plus et toujours plus à l'homme qu'elle aime et qu'elle vénère comme un dieu, comme un maître, elle pense qu'en se donnant sexuellement plus, elle obtiendra amoureusement plus. Elle pense qu'elle va atteindre l'amour absolue, en acceptant d'être prêtée à d'autres hommes, en acceptant d'être fouettée, en acceptant d'être battue, etc. Et ce récit donc est profondément dérangeant, mais en fait le geste de l'auteur est extrêmement audacieux et pionnier, parce que pour la première fois, une femme, enfin un auteur féminin, ose finalement donner forme à son érotique singulière, ose parler de sexe. Le sexe est le principe de l'action, le sexe est la finalité de l'action, le sexe envahit vraiment tout le récit. Mais dans le même temps, la langue utilisée par l'auteur est décente. Il y a un certain nombre de métaphores, de jeux de langage qui font que l'œuvre a profondément dérangé aussi la critique littéraire de l'époque, une critique à l'époque qui était essentiellement masculine. Et leurs références, c'était Sade, c'était André-Pierre de Mandiargue, c'était Apollinaire avec les 11 000 verges. Et là, une femme, voilà, un auteur féminin osait s'emparer du code érotique de l'amour. Et donc le geste est pionnier, et d'autres auteurs féminins qui osaient parler de leur intimité sexuelle amoureuse dans les journaux intimes, parce que pendant longtemps, finalement, les auteurs féminins avaient accès à assez peu de registres littéraires. La correspondance, le journal intime, l'autobiographie. Et là, donc, une femme met en forme son érotique singulière dans un récit que les critiques ne savent pas trop comment... Enfin, lorsque Histoire d'eau paraît, les critiques ne savent pas trop où classer l'œuvre. Et certains vont la qualifier de mystique. Parce qu'en fait, ils sont dérangés parce que dans ce récit, le code érotique de l'amour est mis au service du code sentimental de l'amour. Alors qu'en fait, dans l'érotisme littéraire masculin, il y a quand même une base qui est celle que les auteurs masculins ont tendance à découpler le sexe du sentiment. Et au début des années 50, si vous voulez, on est dans un contexte de désacralisation de l'amour fou. L'amour, aussi bien dans sous sa facette passionnelle que sous sa facette sentimentale, est dévalorisé. Et l'amour est incarné principalement par les femmes. Vous prenez par exemple la nouvelle Héloïse de Rousseau, selon le mot de Julie à Saint-Preux, c'est l'amour qui est la grande affaire de la vie d'une femme. Vous prenez l'amoureuse dans Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, elle explique que, elle cite un certain nombre d'auteurs pour lesquels l'amour est vraiment l'apanage des femmes. Et Simone de Beauvoir explique que, déconstruit la mécanique psychologique à l'œuvre de la grande amoureuse, celle qui va se choisir un homme qu'elle trouve suffisamment transcendant, suffisamment supérieur pour être digne de l'amour fou qu'elle va lui porter. Je navigue, il y a tellement de choses, c'est très, très riche. Mais,
Donc ça voudrait dire, avant de voir le point de vue, le deuxième point de vue, ça voudrait dire que l'érotisme au féminin, on passe au départ par l'amour.
Oui.
Et la vraie question, c'est peut-être jusqu'où et à quel moment. Ce n'est pas une question que je vous pose, puisqu'on va entendre le deuxième point de vue sur ce thème érotisme ou pornographie, mais peut-être à quel moment il y aurait un décollage de la sexualité par rapport à cet amour, mais ça, ce sera, on en rediscutera peut-être tout à l'heure, effectivement. Donc, ce serait plutôt érotisme que pornographie directement. En fait.
Oui, la pornographie chez les femmes arrive plus tard. Beaucoup plus tard, en tout cas, oui.
Mon point de vue était passablement différent, puisque, en dépit du fait de faire une étude placée sous le signe de esthétique et sciences de l'art, il s'agissait pas du tout de chercher à valoriser un corpus d'images en cherchant peut-être à découvrir ce qui en lui pouvait être intéressant du point de vue esthétique. Je pense d'ailleurs, et j'en suis intimement convaincu, que l'imagerie pornographique n'a strictement aucune valeur esthétique. Donc pour moi la question était ailleurs. Je me suis beaucoup plus intéressé à un phénomène de société, un phénomène culturel, qu'à véritablement un corpus d'images. Je dirais que ce qui m'a motivé dès le départ, c'est une sorte d'obsession presque fanatique pour un thème philosophique dans lequel je ne cesse de me replonger, de puiser, de réfléchir, qui consiste à dire que l'évolution de notre culture n'est pas une évolution linéaire avec des ondulations plus ou moins marquées, mais un processus fait de ruptures et parfois de ruptures radicales. J'ai été assez jeune soumis à l'influence de philosophes, de critiques, notamment de l'école de Francfort, qui ont beaucoup insisté sur le fait qu'entre le XIXe siècle et le XXe siècle, notamment avec l'émergence de nouveaux moyens de diffusion de la culture, eh bien on avait assisté à une grande rupture, une rupture absolument fondamentale, définitive et réductible, qui nous faisait passer de l'époque de la culture bourgeoise ou de l'art bourgeois à l'ère de l'industrie culturelle. Moi, cette rupture-là, cette transformation en profondeur de notre environnement culturel, ça veut dire de ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais aussi de ce qui se passe à l'intérieur de nous, m'a toujours passionné. Et j'ai cherché à en parler. Alors évidemment, lorsque j'ai commencé mes recherches universitaires, je me suis vite aperçu que embrasser d'un seul mouvement un phénomène aussi vaste, aussi complexe, c'était impossible. Et donc, après quelques mois de réflexion, je suis arrivé à cette conclusion toute bête que je devais viser le général depuis le particulier et non chercher à embrasser le général d'un seul coup, du premier coup. Donc, j'ai cherché un angle particulier pour aborder cette perspective immense de la transformation de notre environnement et de nous-mêmes lors de ce basculement, de paradigme. Et j'ai trouvé que la pornographie, c'était un bon moyen. Pourquoi ? Parce que je conteste l'idée que la pornographie soit le territoire à l'intérieur duquel les êtres seraient réduits à l'état de choses. Je conteste ça parce que ça voudrait dire que ailleurs que dans la pornographie, ça n'est pas le cas. Or, je crois au contraire que la pornographie est un excellent baromètre, un thermomètre qui nous permet de mesurer à quel point, dans la société tout entière, dans toutes nos activités, dans tout le domaine de notre existence, eh bien, on assiste à des processus de réification, autrement dit de la transformation de qualité, d'un certain nombre de choses qui sont de l'ordre de la spontanéité, de la tradition, en objet, en choses échangeables, en choses marchandisables. Bien, moi, c'est cet angle-là qui m'a, si vous voulez, motivé et qui justifie cet intérêt pour ce sujet qui, encore une fois, pour moi, est un phénomène culturel, hein, beaucoup plus qu'un corpus d'œuvres qui mériterait d'être valorisé avec les outils traditionnels de l'esthétique.
D'accord. Donc, merci beaucoup. Donc, effectivement, c'est un point de vue... Alors, du coup, j'hésite à poser des questions, de rebondir sur les propos d'Alexandra ou de Frédéric Tachou. Mais bon, je vais rebondir sur les derniers propos de Frédéric Tachou. Une rupture qui serait liée à l'avènement de cette nouvelle industrie, finalement, de la société industrielle, des bouleversements, l'arrivée de nouvelles techniques et technologies, les machines qui vont transformer aussi notre mode d'être au monde et d'être à soi. Et comme le propos, l'intérêt d'Alexandra Desté concerne une autre période, j'ai envie de lui demander, mais de demander aussi à Frédéric Tachou, quelle serait l'autre rupture, est-ce qu'il y aurait d'autres ruptures qui auraient entraîné une transformation du rapport de la femme à son propre érotisme ou à la visibilité de cet érotisme, voire à une certaine pornographie, donc après les années 1950
Oui, alors, moi, je... C'est vrai qu'au début des années 50, je trouve qu'il y a un tournant, puisque les femmes qui jusqu'alors étaient associées à l'amour, hein, dans les représentations collectives, elles osent désormais déconstruire, démystifier, démythifier, dénoncer les sortilèges amoureux, les ré-séduisant l'amour, de l'amour, les mots captivants de l'amour. Elles osent porter désormais un regard lucide sur les choses de l'amour. Elles osent dénoncer l'illusion amoureuse dans un contexte plus global, effectivement, de désacralisation de l'amour fou. Alors que, vous le savez, avec le mouvement surréaliste, l'amour fou était chanté par Breton et tant d'autres. Et elle propose, en effet, pour alternative, puisque finalement, elle ne se contente pas de dénoncer, de déconstruire, mais aussi de remettre en cause, elle remet également en cause les identités féminines et masculines traditionnelles. Elles osent interroger le féminin, le masculin, et elle propose l'érotisme comme alternative, puisque elle, pour certaines d'entre elles, comme par exemple Françoise Debonne, mais aussi on trouve chez certaines romancières comme Françoise Sagan, l'idée que voilà, pendant longtemps les hommes, les écrivains, dans leur mise en scène, dans leur mise en forme, etc., déniaient l'existence d'une sexualité féminine à part entière. Le désir féminin était considéré comme naissant par contagion ou naissant par adaptation profonde, ou finalement un désir féminin donc qui venait en second lieu. Vous prenez, certaines d'entre elles citent par exemple les grandes scènes fondatrices de la littérature du 19e siècle avec l'éducation sentimentale de Flaubert, où on voit effectivement on est face à un personnage masculin qui contemple une femme et qui la réclame, qui l'appelle du regard, mais le personnage féminin reste l'objet du visu de l'homme. Et donc elles osent dénoncer ceci avec force et proposer donc l'érotisme comme une alternative. Par exemple, Simone de Beauvoir, dans L'Amoureuse, dans le deuxième sexe, va s'appuyer sur Colette en expliquant que la vagabonde de Colette, la fameuse Renée Néré que vous trouvez dans la vagabonde de Colette, incarne une sorte de mutation féminine, que finalement, c'est au prix du renoncement à l'amour que la femme peut se conquérir, se ressaisir comme sujet plein, comme sujet humain, comme sujet transcendant. Et là, avec Simone de Beauvoir, mais aussi avec une autre essayiste, Françoise Debonne, avec aussi Suzanne Hillard, également essayiste et romancière, on est face à l'idée voilà, que le féminisme ne pourra se faire que si, qu'au prix d'un renoncement à l'amour, à son champ de manœuvre, à l'amour qui en fait entraîne une dépendance alors qu'on suit plutôt comme malsaine, les affres de l'attente. Enfin, il y a une remise en cause féroce du lien, de la complicité culturelle des femmes avec l'art d'aimer, dont on trouve par exemple une illustration au XVIIe siècle avec les précieuses ou tant d'autres. Enfin, Donc je pense qu'il y a, une lucidité féministe qui émerge au début des années 50 dans le sillage de Simone de Beauvoir et qui pose, mais qui n'est pas encore réconciliateur du féminisme et de l'amour. Pour ça, il faut... Après, par rapport à la pornographie, je suis pas dans une diabolisation de la pornographie, mais je trouve que la pornographie au cinéma... Je pense, dans les années 70, la pornographie, c'est vrai, a été un formidable outil de libération des corps et des consciences. Et je pense à un documentaire qui a été conçu et qui, on a des témoignages de spectateurs et des spectatrices du premier film, de l'un des premiers films porno, Gorge Profonde. Et on a le témoignage d'une dame habillée de façon très BCBG, plutôt âgée, et qui s'exclame avec beaucoup de bonheur à la sortie du film « Enfin, j'ai pu voir pour la première fois de ma vie un film cochon. Quel bonheur !» Et donc voilà, on passe le seuil de la chambre à coucher, et donc c'est ça, la pornographie, je pense à cette époque-là, est utilisée comme un outil politique pour dénoncer les censures, et en cela constitue une démarche salutaire. Après, aujourd'hui, je trouve que la pornographie, c'est... je la trouve appauvrissante, que l'industrie de la pornographie est appauvrissante. Elle dérange mon cinéma intérieur, elle impose une représentation que je trouve pauvre de la relation sexuelle entre la femme et l'homme. Et je pense que.
Avant de revenir à la place de l'homme par rapport à la femme, je sens que Frédéric Tachou brûle d'intervenir. Effectivement, la question de l'intimité est fondamentale, il me semble, et surtout par rapport à une certaine esthétique qui est articulée avec l'histoire, là aussi, Frédéric Tachou.
Pour moi, ce qui change fondamentalement, c'est quand on photographie des corps réels. La nudité, jusqu'au milieu du XIXe siècle, n'était autorisée que dans le cas où le peintre, dans l'atelier, donc un lieu déjà privé, eh bien faisait poser devant lui des hommes et des femmes, évidemment, nus. Ça, c'était la nudité exposée, la nudité réelle d'un corps réel, tolérée. À partir du moment où on fait rentrer dans ce processus des instruments aptes à capturer, de façon objective, enfin entre guillemets, les corps réels, et lorsque cette image devient un objet largement et facilement diffusable, là, tous les paramètres traditionnels se trouvent bouleversés. D'abord, le statut du corps, le statut du modèle, parce que le modèle, son corps réel exposé nu, eh bien, ça n'est plus simplement réservé au privilège du peintre, mais ça devient une image de son corps, une image réelle de son corps, accessible à une quantité de regards virtuellement infinie. Bien, donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les modèles qui s'exposaient pour les photographes qui faisaient de la photographie obscène étaient considérés comme des prostituées et juridiquement traités comme des prostituées. Mmh. C'est-à-dire qu'on considérait le fait de laisser circuler l'image photographique de son corps nu comme un acte de prostitution. Donc là, il y a beaucoup de choses qui se trouvent bouleversées. C'est la relation à son propre corps, c'est la relation... du spectateur au corps de l'autre par l'entremise de la photographie. Donc là, évidemment, on assiste à des grands changements qui, ensuite, avec le cinéma pornographique, vont franchir une étape supplémentaire, puisqu'on acquiert, évidemment, grâce à la technique, la possibilité de recréer des scènes vivantes, enfin, entre guillemets, vivantes. Alors, je dirais simplement un mot sur le contenu de ces images, parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est des images qui, d'après moi, n'ont qu'une valeur esthétique très faible. J'ai même dit, je crois, qu'elles n'en avaient aucune. Bon, c'est un peu rapide comme jugement, parce que néanmoins, il y a un contenu qui est un contenu effectivement transgressif ou subversif, dans le sens où ces images, d'après moi, et contrairement à ce qui a été beaucoup dit et beaucoup entretenu comme mode d'appréhension de ces images, il ne s'agit pas d'images réalistes. Cette imagerie pornographique, dès la photographie obscène et ensuite évidemment dans le cinéma pornographique primitif, eh bien, cherche à... construire une sorte d'utopie sexuelle, d'idéal de ce que serait la sexualité. Alors l'idéal de ce que serait la sexualité, eh bien c'est on peut faire ça n'importe quand, n'importe où, il suffit de rentrer chez soi et de voir le peintre sur un escabeau pour que tout de suite on s'intéresse à la quéquette du peintre. Enfin bon bref, il y a tout un tas de situations prétextes qui justifieraient le fait que la sexualité doive être et puisse être partout. Donc cette utopie, elle est mise en scène avec des moyens complètement dérisoires, histoires, parfois des scénarios et des justifications totalement abracadabrantes. Elle se soucie absolument pas de ce qu'est la réalité de la sexualité, et donc on peut pas considérer cette imagerie comme une imagerie réaliste. C'est une imagerie qui développe un monde fantasmatique, mais qui est évidemment un monde fantasmatique essentiellement masculin. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas voir là une imagerie qui laisserait une place ou qui ouvrirait un espace original et inédit à l'imagination sexuelle féminine. En revanche, on a aussi dans cette imagerie des velléités de transgresser les usages et les codes dominants dans la sexualité, pour le coup réels. Donc on imagine des femmes très hédonistes, on imagine des femmes très émancipées, très libérées, ce qui à l'époque évidemment constituait des modèles pour le moins anticonformistes. Donc c'est là où se joue, d'après moi aussi, peut-être ce qu'il y aurait d'intéressant à relever dans cette imagerie, c'est cette fantasmagorie transgressive, cette mise en acte d'une imagination sexuelle qui déborde évidemment les cadres institutionnels, les cadres conventionnels et les cadres entre guillemets bourgeois, évidemment. Donc corruption des espaces, cette corruption des situations, n'importe quelle situation ordinaire, la rencontre de deux personnes dans une rue est tournée tout de suite en situation sexuelle, ça, c'est une imagination qui est évidemment une imagination qui met au centre la corruption du mode de vie normal, le détournement du mode de vie normal pour l'orienter vers une explosion du désir sexuel, de cette quête de satisfaction irrépressible qui évidemment doit être rapportée à des modèles masculins, à ces besoins de jouissance qui restent quand même essentiellement masculins. Donc on fait par exemple de la soubrette, on fait du droit de cuissage en entreprise, le patron qui va abuser de ses secrétaires, etc. Enfin, des modèles et des motifs assez récurrents dans tout ce corpus de photographies, puis de films.
Et le curé dans les petits films clandestins, voilà, du début du XXe siècle, alors, on trouve des figures très respectées. Oui. La figure de l'instituteur, la figure du curé à son...
C'est ça. Alors bon, ça s'inscrit aussi dans une tradition qui est héritée, je crois, de la lithographie. De la lithographie du XVIIIe siècle qui recyclait aussi des thèmes très populaires de dénonciation de toutes les formes d'autorité. Hein, ça peut être l'autorité de l'instituteur, l'autorité du curé, l'autorité d'un représentant politique, etc., qu'on va montrer sous l'angle, évidemment, de celui qui est dominé par ses désirs et qui n'est absolument pas en réalité ce que son costume voudrait qu'il soit. J'ouvre une toute petite parenthèse pour signaler l'existence dans ce corpus de films de trois œuvres là qu'on peut vraiment considérer comme des œuvres. Ce sont trois films qui ont été réalisés par des pionniers du cinéma espagnol qui s'appelaient Ricardo et Afonso de Baños et qui sont catalans et qui ont reçu une commande un peu surprenante de la part du roi Alphonse XIII pour trois films très très bien financés et donc des films qui ont été parfaitement mis en scène avec des acteurs parfaitement mis en scène, dans de très beaux décors, etc. Et ces films ont été restaurés au début des années 90 par la Cinémathèque de Valence. Et là, on peut voir qu'il y a un discours. On peut voir justement la mise en scène de ces représentants de l'autorité. En plus, les films forment un triptyque déclinant le thème du curé, du médecin, et puis, je crois, du ministre, voilà, donc d'un politicien. Et on voit ces trois hommes qui sont représentants de l'autorité, enfin de différentes formes d'autorité, en fait, être absolument dominés par leurs fantasmes, par leurs pulsions, et passer leur journée à chercher les moyens de les satisfaire. Donc, ce sont des films qui, ils font exception dans le corpus, hein, c'est rare les films qui font sens à ce point, mais en tout cas, ceux-là sont de parfaites illustrations de ce monde irrépressibles de fantasmes qui sont mis en scène, actés, et les films et les photographies avant les films, évidemment, représentaient ce monde d'une sexualité utopique.
Et ce qui est très intéressant dans les deux ouvrages présentés ici, c'est que dans les deux cas, nous avons vraiment des descriptions, des explications. Nous avons les récits des films comme des romans. Donc c'est très intéressant pour ceux qui ne les ont pas vus ou lus, pour pouvoir suivre. Et en fait, cette transgression des espaces, cette subversion des espaces se font toujours quand même sur un rapport entre la place de l'homme par rapport à la femme dans l'histoire et une histoire qui est double, qui est à la fois celle de la sexualité et celle de la façon dont cette sexualité peut être montrée, représentée, transformée en image, voire en image artistique, voire en œuvre artistique. Donc cette histoire double, en fait, c'est celle qui est produite par les hommes, pour les hommes au départ, hein, et fondée de surcroît sur une inégalité qui pose que la femme dans la société occidentale, hein, en Europe, aux États-Unis aussi, que vous citez, a sa place au foyer, hein, comme mère ou comme épouse, ou comme, dit Alexandra, aimante, c'est-à-dire dans le sens comme amoureuse, hein, finalement, c'est un petit peu le glissement, la différence que l'on peut voir dans les deux lectures, c'est peut-être qu'Alexandra Desté met l'accent sur cette importance de l'amour pour la femme, en tout cas aliénée par ses propres sentiments. En plus de l'aliénation par la norme dans cette façon d'être placée sous le poids de la norme sociale, et qui, au final, ne fait qu'appartenir à son époux. Alors, il y a effectivement plusieurs passages dans les deux ouvrages. C'est ça qui est extraordinaire. Moi, je trouve que même s'il ne s'agit pas des mêmes domaines ni des mêmes périodes, on retrouve tout à fait, par exemple, ce petit texte de loi que cite Frédéric Tachou, « Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse ou par celle-ci sur son époux n'est pas excusable. Si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a lieu. Néanmoins, dans le cas d'adultère prévu par l'article 336, le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où on les surprend en flagrant délit, dans la maison conjugale, est excusable. » Et on oublie la femme dans cette histoire-là, comme vous le montrez très bien. C'est-à-dire le meurtre par l'époux est excusable, mais on ne dit pas si c'est l'inverse, si c'est la femme qui commet un meurtre, eh bien ça on oublie, je pense qu'il sera nettement moins excusable, sans doute. Alors, le cinéma pornographique primitif, un cinéma pour les hommes, du désir masculin, mais en fait, comme vous le montrez bien, les choses ne sont peut-être pas si simples que ça. À un certain tournant, peut-être il y a une possibilité d'ouverture, de mise en visibilité, voire de visualisation, oui. Si vous pouvez peut-être
oui,
nous
alors,
expliquer.
Juste un tout petit mot qui nous permettra aussi de rebondir sur la question des années 70. Moi, je ne crois pas du tout que la pornographie cinématographique des années 70 ait eu des vertus libérantes. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que j'ai visé aussi à travers mon ouvrage, c'est de distinguer ce qui relève de la liberté de ce qui relève de la libéralité. Que ce processus, dans les années 70, comme bien d'autres d'ailleurs, on a tous connu dans les sociétés occidentales, y compris aussi en Europe centrale et même en Russie d'ailleurs à l'époque, des grands mouvements émancipatoires qui étaient liés à des conflits générationnels. Donc la production cinématographique pornographique a participé de ce processus. Mais je pense que ça a été une parenthèse dans un système d'image qui finalement, selon moi, est resté absolument inchangé. C'est un système d'image qui consiste à faire échanger du fantasme entre spectateur et écran. Donc le fait que la pornographie, la production se soit enrobée ou utilisée comme masque, comme prétexte, comme parfois aussi disposition d'esprit sincère, cet alibi de libération, moi je ne suis pas tout à fait convaincu. Je pense que la libération elle est passée par d'autres canaux, elle est passée notamment par les canaux politiques et surtout juridiques, et la mise en place de dispositifs juridiques réels qui ont véritablement changé la vie des gens, parce qu'il faut savoir qu'en France, par exemple, le pouvoir juridique des femmes n'a été acquis qu'en 1975. Donc, ce sont ces choses réelles qui ont transformé la vie des gens et non pas le fait qu'on puisse voir dans un cinéma un film pornographique.
Oui. J'avais juste envie de répondre à une question que vous avez posée précédemment par rapport à des tournants historiques majeurs. Il y en a un autre que j'ai identifié, que je situerai donc à la fin du 19e siècle, lorsqu'effectivement le corps nu, statique, cantonné à l'atelier de l'artiste, effectivement se met en mouvement et investit, comme vous le disiez, le cinéma alors balbutiant, alors naissant, mais également se met en mouvement sur scène, et notamment sur la scène du musical. Alors ça fait une période un tout petit peu plus tardive, mais notamment dans les pantomimes de la fin du 19e siècle, où là, le corps nu féminin s'exhibe, s'expose, se met en mouvement et se met quelque part déjà en position désirante, à convoiter en fait l'œil du spectateur. Alors le corps nu est légèrement paré, maquillé, vêtu d'une légère gaze. Et mais là, je pense que là, il y a un tournant qui est intéressant parce que le corps nu, statique, cantonné à un espace confidentiel, privilégié, qui ne regarde que l'artiste et son modèle, se met en mouvement sur scène. Je pense par exemple aux danseuses de French Cancan, à toutes ces grandes stars, premières grandes stars féminines. Et d'ailleurs, le terme star a été utilisé pour la première fois pour désigner une danseuse de French Cancan qui s'appelait alors Gabize. Donc là, voilà, je voulais ajouter.
Alors, il y a quand même une grande différence entre vos deux ouvrages. C'est que la littérature, finalement, fait partie des œuvres, de l'art, de l'histoire de l'art, en tout cas l'histoire de la littérature. Et la pornographie au cinéma, dont vous parlez, Frédéric Tachou, n'appartient pas vraiment à l'art, en tout cas pas du tout à l'art institutionnel, au cinéma. Hein, c'est ce que vous mentionnez plusieurs fois. Ce serait quelque chose qui se chercherait comme à la limite de l'esthétique et du quotidien, et qui ne participe pas directement de ces combats politiques. Même si indirectement, on y trouve finalement une certaine, vous l'analysez très très bien en finesse, une certaine ambivalence qui permet de ne pas classer de façon, et notamment lorsque vous analysez son esthétique, une façon de pouvoir mettre en tension l'intime et le public et de bouleverser les espaces, comme vous le dites très bien.
Bien sûr, mais c'est toute la différence précisément entre liberté et libéralité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les éditeurs se sont emparés du marché de la photographie obscène puis du cinéma pornographique primitif, c'était des gens qui étaient souvent soumis à des interdictions, à des actions de censure, à tout un tas de mesures policières pour les empêcher d'agir. Mais par ailleurs, c'est des gens qui ne relayaient absolument pas leur activité transgressive au plan des mœurs avec des revendications politiques. Donc c'est des gens qui, je crois, œuvraient, et on peut les en remercier d'une certaine façon, œuvraient pour élargir l'espace de libéralité, mais pas des gens qui, selon moi, œuvraient en profondeur pour ouvrir des perspectives, comment dire ça simplement, révolutionnaires. Donc c'est une industrie, c'est un marché du fantasme qui a des vertus, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont des vertus transgressives, corruptrices, c'est des façons de bouleverser et d'ébranler des modes de pensée, des modes de représenter notre vie en société qui sont parfois intéressants, amusants, enfin piquants pour l'esprit, mais en même temps, je pense pas que ça soit l'expression, la manifestation d'un projet plus profond de transformation sociale. Donc c'est tout l'enjeu, hein, c'est où se situe l'action dans cette polarisation liberté-libéralité. Alors après, évidemment, on pourrait définir ce qu'est liberté, mais bon, c'est un vaste débat. Mon ouvrage vise ça, c'est-à-dire vise à inviter chacun à réfléchir, y compris à l'échelle de sa propre existence, sur ce qui, dans tout ce qu'il entreprend, tout ce dont il rêve, relève de la liberté ou de la libéralité. Évidemment, ces enjeux sont des enjeux aussi sociaux. Hein, je dis d'ailleurs en la petite phrase de Marcus qui est citée en exergue, dit ceci: la liberté n'est pas une affaire individuelle, mais ça n'est rien si ça n'est pas aussi une affaire individuelle. Et là, il y a évidemment une dialectique fort complexe.
Dans vos deux ouvrages, vous parlez finalement des marges. Les marges, alors on pourrait poser la question aussi que deviennent ces marges aujourd'hui, mais en tout cas, dans le cinéma, à ses débuts jusqu'en 1950, c'est finalement un cinéma en marge. Hein. Et puis, en littérature, cet éros au féminin, finalement, parlant des femmes, écrite par les femmes, voire pour les femmes, suit une histoire qui ne va pas de soi, comme vous le montrez, Alexandra. C'est-à-dire chaotique, semé d'embûches et recourant souvent à quelques masques, voire se situant dans une certaine marginalité.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le paysage a changé. Dans les années 50, le territoire sado-masochiste était plébiscité par une sphère intellectuelle, par des amateurs éclairés, par des écrivains d'avant-garde. Aujourd'hui, les éléments de l'érotisme noir, c'est-à-dire les éléments du sadomasochisme, ils sont récupérés par le marché, en quelque sorte. Quand vous voyez, par exemple, le phénomène 50 nuances degrés, c'est un érotisme qui se veut à la portée de la ménagère de moins de 50 ans afin de pimenter la vie sexuelle de son couple. Et c'est souvent, dans la plupart des cas, 50 nuances degrés est lu ainsi afin d'enrichir, de pimenter, d'apporter un peu d'originalité à une vie de couple. Et on voit bien tout ce qui a été produit à partir de la parution de ce livre, enfin des sex toys avec le label 50 nuances degrés, enfin des jeux de société, des strings, enfin il y a une récupération d'éléments qui au départ étaient cantonnés à une certaine élite intellectuelle et qui, enfin, l'érotisme touche là un nouveau degré de démocratisation et qui ne va pas dans le sens du féminisme, parce que lorsque vous lisez 50 nuances degrés, hein, on est face à une héroïne jeune, belle, innocente, vierge, qui fait la rencontre d'un homme un peu plus âgé qu'elle, richissime, mais qui a le malheur effectivement de ne savoir aimer que par le biais de pratiques sadomasochistes. Et le personnage masculin lui propose de nouer un contrat d'esclavage. Et là où effectivement il y a un progrès, c'est que l'héroïne va réussir à repousser la signature de ce contrat pour amener l'être aimé vers sa propre conception en matière amoureuse. Mais là, c'est une concession. On est face à une démocratisation extrême des codes de l'érotisme, notamment de l'érotisme noir, dans une perspective hédoniste afin d'enrichir la vie de couple.
Alors, si vous me permettez, je voudrais juste faire une petite remarque sur cette notion de démocratisation. Moi, c'est un mot que j'essaie de ne pas utiliser. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est tout à fait intéressant, justement, parce que là, on est au centre du problème. Moi, je dirais que démocratisation, ça veut dire extension de l'espace de libéralité ou consommation de masse. Voilà, mais c'est ça qui est l'enjeu, je crois, et qui nous gêne, parce que je crois que la pornographie, c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas exister. C'est absurde. Je m'en prends pas mal d'ailleurs à ces auteurs qui ont une approche éthique du problème et qui essaient d'opposer à la pornographie ce monde de représentation de la sexualité. Je leur dis à ces gens, mais la pornographie ne peut pas ne pas exister. La question doit être non pas de comment l'éliminer ou comment la supprimer, mais pourquoi elle existe et où on la met. Où on la met dans notre culture et aussi à l'intérieur de soi-même.
Et comment conjurer ces effets de réel ? Parce que effectivement, si la pornographie déréalise, tend à déréaliser, puisque finalement, elle propose une utopie fondée sur la performance, sur les jouissances successives, les acteurs deviennent en quelque sorte des athlètes dans ce que l'on peut percevoir. Comment expliquer qu'elle produise des effets de réel très négatifs sur les jeunes ? Et beaucoup de garçons sont angoissés et se sentent obligés de reproduire un certain nombre de représentations qu'ils reçoivent. Beaucoup de jeunes filles ont peur d'être sollicitées de cette façon par les garçons. Enfin, je suis amenée à travailler avec des enseignants, avec des animateurs, des animatrices qui relaient leurs inquiétudes par rapport aux effets concrets. Donc si la pornographie déréalise, elle exerce néanmoins des effets de réel qui pèsent notamment chez les jeunes. Et comment conjurer ça ? Et moi, le fait de travailler sur l'érotisme littéraire féminin, de proposer des érotiques féminines singulières, c'est une façon pour moi d'offrir le contrepoison à la pornographie ambiante, d'offrir en quelque sorte une antidote à cette pornographie ambiante, puisque finalement, on est là face à des imaginaires singulier.
Alors, grande relativité, différence de culture. En tout cas, merci beaucoup, Alexandra Desté, merci Frédéric Tachou, et merci à vous.
Merci.
Merci.
Merci. Merci à vous.